Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Approchez-le donc de votre oreille, tout proche. Le livre d'Olivier Cadio qui vient de paraître chez POL, intitulé « Providence », diffraction de l'auteur-personnage en quatre récits qui n'en font peut-être qu'un, est pleinement sonore. Les pages résonnent, partagent des moments sonores, mais aussi des expériences sensibles que vit l'un ou l'autre personnage, une écoute, un mouvement dans l'écoute. Moi, j'ai du volume. Si tu entendais vraiment ma voix, ce serait un choc, dira le premier. La voix qui écrit ou qui parle tente de se faire entendre. Et c'est évidemment par l'oreille que Thomas Baumgartner entrera dans Providence dans la deuxième partie de l'émission. La première sera un retour sur Bernard Heitzig, qu'Olivier Cadio a connu. Bernard Heitzig, le père de la poésie-action, disparu fin novembre. On va l'entendre ce soir parce qu'il a du volume, parce qu'une voix ne s'éteint pas et parce qu'il est tout proche, lui aussi.
Bonsoir à vous, bienvenue dans l'atelier du son. On aime les inventeurs, les précurseurs, ceux qui ont, malgré eux, souvent montré un chemin, ceux pour qui, au-delà même du fameux « bon qu'à ça », il y a l'impératif, le mouvement qui ne laisse pas de choix et qui, une fois adopté, se transmet, se contamine, fait jurisprudence et ouvre enfin d'autres chemins. Bernard Heitzig, voilà un nom d'inventeur, de précurseur. Il est le poète sonore, le poète debout, celui qui a voulu, pour que la poésie survive dans son époque, la sortir de la page. Bernard Heitzig est mort le 22 novembre dernier. 8 jours avant sa disparition, nous diffusions une émission qui lui était consacrée en évoquant un film dont il était le centre, un film signé Anne-Laure Chamboissier et Philippe Franck, sans savoir à quel point il était urgent de le faire. Ce soir, c'est un post-scriptum, encore un peu plus en sa présence, en la présence de Bernard Heitzig. Bonsoir Antoine Lalanne.
Bonsoir Thomas.
Vous êtes journaliste à RFI.
Exactement.
Et si on fait cette émission ce soir, en fait, en présence, on va voir ça et on va voir comment, de Bernard Heitzig, c'est grâce à vous, parce que vous nous avez contactés, juste après la disparition de Bernard Heitzig. On s'était croisés déjà dans un festival où on sera d'ailleurs la semaine prochaine, c'est le festival Longueur d'onde à Brest. Et là, quand Bernard Heitzig a disparu, vous nous avez dit « je l'ai rencontré ». Et ouais. Non seulement je l'ai rencontré, mais je l'ai enregistré.
Oui, c'est exactement ça. Oui, je l'ai rencontré en décembre 2013. Mm-hmm. Je suis allé chez lui, Île Saint-Louis. Il m'a accueilli et on a discuté bien de son œuvre. On a discuté de nombreuses choses et j'ai enregistré tout ça.
Là, on va voir dans quelles circonstances précisément. Et puis, on va l'entendre, évidemment. En face de vous, il y a Olivier Cadio. Bonsoir.
Bonsoir.
Auteur, écrivain, dramaturge. Et vous publiez là ces derniers jours Providence chez POL. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, on verra en quoi ça se lie, non seulement à la première partie, mais à notre propos en général dans l'atelier du son. Bernard Heitzig, c'est une figure importante pour vous.
Ah oui, très, très importante, oui. Voilà. Donc je suis heureux de pouvoir en parler, surtout de l'écouter de nouveau là, parce qu'on n'entend pas beaucoup de, on n'entend pas beaucoup sa parole aussi. Mm-hmm. On entend quelquefois, heureusement, ses performances, mais sa parole, c'est précieux.
La question de la performance, oui, le poète debout, ça c'est une figure qui résonne.
Non, moi j'ai toujours fait des lectures assis, mais quand par debout, il entendait couché, hein, ouais, aussi, si, oui, oui. Étendu à l'envers, dos tourné à la scène. C'est-à-dire peut-être simplement pas en présence, peut-être. On en parlera tout à l'heure.
Absolument. Antoine Lalanne, alors on va écouter. Juste, on est où au moment où vous le rencontrez en décembre 2013? Ça se passe où, cette rencontre?
Ça se passe donc chez lui, dans son salon, Île Saint-Louis. Donc c'est une pièce où il y a énormément de livres au mur, il y a des tableaux partout. Il y a une grande table où il y a une machine à écrire. Il y a son magnétophone qui est un Revox, pas loin. Lui, il est assis. Bon, il était un petit peu faible, il est resté assis pendant tout l'entretien, mais une super voix, extrêmement en forme, très disponible.
Ouais, mais vous alliez chercher quoi en fait, en le rencontrant?
Bah, à vrai dire, j'avais très envie de le rencontrer, pour être honnête, puisque je savais qui c'était, on avait beaucoup parlé, Jean-Pierre Bobillot m'en avait beaucoup parlé, Jean-Pierre Bobillot qui est poète aussi. Mm-hmm. Et je sais pas, moi quand j'ai entendu Bernard Etzik au tout départ, bon, j'avais 23 ans, 22 ans, et j'ai eu l'impression de comprendre plein de choses sur ce qui se fait aujourd'hui dans la création sonore, à la radio. Donc c'était lui que j'allais voir et j'avais envie de le découvrir, j'avais quelques questions.
Donc revenir aux origines en quelque sorte aussi de ce qui vous intéresse, vous.
Ah, tout à fait, c'est voilà. Exactement ça.
Bah, justement, il revient sur les origines de son activité de poète, Bernard Etzik, à votre micro, Antoine Lalanne.
La poésie a 50 ans de retard par rapport à ce que j'entends là, n'est-ce pas? C'est vers ça que la poésie doit se diriger, c'est-à-dire se projeter dans l'espace, quitter le papier, le livre, se mettre debout. C'était dans cette voie que la poésie devait aller et circuler. On a œuvré pour que la poésie sorte de livre et qu'elle reprenne un peu contact avec la société dont elle s'était. Personne ne lisait de poésie, n'est-ce pas? Dans les années 50, personne. On s'en foutait complètement, si ce n'est peut-être des professionnels comme ça, ou des étudiants, ou des professeurs, par obligation. Mais c'était la fin à l'époque, dans les années 50, du surréalisme, avec une inflation d'images insupportable. C'était l'apparition de la poésie blanche, à l'inverse, un mot par page, pratiquement, n'est-ce pas? Tout ça, ce n'était pas galvanisant, quand même. Les années 50, qui représentent un peu une charnière, comme ça, dans laquelle nous avons débarqué, justement, représentent une période assez sinistre pour la poésie. Et il fallait donc faire autre chose. Il fallait, je me suis dit, si on y croit encore, la rebrancher un peu sur la société. Et pour ça, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de la sortir du livre. De mettre, comme je le disais tout à l'heure, la poésie debout. Et à partir de là, la présenter sur scène ou n'importe où, dans des lieux, quels qu'ils soient. Ce qui n'empêche pas l'existence du texte sur le papier, mais comme une partition, de musique n'est réellement devenue musique que lorsqu'elle est jouée. Eh bien, là, c'était le même propos. Le poème ne devenait réellement poésique à partir du moment où il était lu, pas par un acteur, mais par son auteur, directement sur scène. Voilà. Les choses, bon, se sont développées, en effet, dans cette direction. Hein, l'ignorance des autres poètes, dits entre guillemets, classiques ou traditionnel, n'est-ce pas, qui nous ignorait complètement. Quand je dis nous, c'est parce que je n'étais pas seul, bien entendu. Il y avait donc François Dufresne, Henri Chopin, Brian Gazin. Tous les quatre, nous avons, pour la première fois, utilisé un magnétophone dans les années 50. Le premier que j'avais acheté, le Harting, là, en 59, bon, ne permettait pas grand-chose, il était mono. Mais quand même, en 62, j'ai fait un montage avec des ciseaux et des collants, n'est-ce pas, je me suis aperçu que, après tout, je pouvais intervenir sur la bande. Je pouvais faire des collages, y introduire des choses prises à l'extérieur, par exemple, ou n'importe quoi, enfin. Donc, ça, c'était rudimentaire, c'était artisanal, en quelque sorte. Mais au début des années 70 est apparu le Revox. Avec le Revox, on tombait sur une petite usine, quand même, n'est-ce pas, qui permettait des quantités de choses. Donc j'ai basculé, j'ai acheté évidemment un Revox à ce moment-là. Pendant les périodes d'enregistrement, avant le travail sur la bande elle-même, je m'arrangeais pour être seul dans la pièce. Mais quelquefois, il suffisait qu'une voiture passe, n'est-ce pas, et merde, il faut recommencer mon enregistrement, je n'ai pas de bruit de voiture dans ce texte, par exemple. Il m'est arrivé, bon, à la fin, fatigué d'être obligé de recommencer un texte, de terminer des choses que je ne pouvais pas faire ici, d'aller en studio que je louais. Il y avait des choses que je ne pouvais pas réaliser.
Il y a des cadeaux parfois qui arrivent par mail, des messages. Voilà, c'est ce qui est arrivé il y a quelques semaines quand Antoine Lalanne nous a envoyé un mot nous disant, voilà, Bernard Haitzik est sur mes bandes. Alors, ce n'était pas des bandes, voilà, c'est ce dont parlait un instant Bernard Haitzik, mais c'était un enregistrement numérique que vous avez réalisé en décembre 2013 et il se livrait à votre micro qui était tendu là, pas tout à fait par hasard, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous ne vous attendiez pas tout à fait à ce témoignage, à cette narration, à ce récit-là. Et alors, on entendait, ce qu'on a entendu d'ailleurs au début de l'émission, un extrait du chant des adolescents de Stockhausen, dont il a dit, et ce qu'on a dit nous-mêmes d'ailleurs dans l'émission au mois de novembre, qui lui était consacré, que ça a été un choc esthétique, un choc artistique. Et à partir de ce choc-là, il s'est dit, il faut l'adapter à la poésie.
C'est oui, c'est ça, ouais, ça a été un choc pour lui. Et d'ailleurs, là, quand on réécoute le son, je trouve ça, enfin, quelque part, pour moi, c'est un petit peu amusant parce que lui, il parle donc de bandes qu'il découpe, il fait des montages pour faire donc sa poésie action qui sort du livre. Et moi, j'ai pas connu ça puisque je suis trop jeune, en fait. J'ai travaillé toujours avec des ordinateurs, du numérique. Et finalement, je vois ce qu'il a pu faire, c'est peut-être bien mieux que de nombreuses choses que des gens aujourd'hui font avec des ordinateurs. Et c'est probablement parce que il a une certaine envie, puis il se questionne, il y a un enthousiasme. Enfin voilà, et c'est d'ailleurs là, c'est exactement à ça que j'ai été confronté quand je l'ai vu. Hein. Cet enthousiasme, cette envie, ce questionnement. Et puis je pense qu'il était aussi content qu'on s'intéresse à lui. Surtout que je suis venu le voir avec Jean-Clarence Lambert. Jean-Clarence Lambert qui est aussi un poète, qui a traduit Octavio Paz. Et en fait, ils se sont rencontrés tous les deux en 1962 à l'American Center quand il y a eu une exposition, enfin une performance Fluxus, qui l'a beaucoup marqué aussi. Donc c'était une sorte d'ambiance assez étonnante.
Et ce qu'on entend là aussi, c'est le geste qui s'invente, un geste de poésie, un geste d'écriture qui s'invente, Olivier Cadio.
Oui, bon, moi ce que j'y entends surtout sa politique, c'est-à-dire bien sûr son geste, mais d'ailleurs il était obligé de parler tout le temps de son geste, et quand vous avez eu raison de dire c'est un inventeur, mais pour lui c'était beaucoup plus simple. Il faut toujours revenir là-dessus et penser que les gens qui travaillent, les choses sont beaucoup plus simples. Et on a tendance à dire, c'est extraordinaire votre invention, votre truc. Bon. Ce qui est le plus extraordinaire, et c'est là où il m'influence aussi, c'est moins dans ses... J'ai pas envie de reproduire son geste, par exemple. J'essaierai d'expliquer pourquoi. D'ailleurs, j'en parle un peu dans ce livre.
Dans Providence,
De manière un peu détournée, enfin. Ce qui m'intéresse, c'est son analyse de la poésie des années 50. Ce que j'entends là, c'est tout d'un coup sa stupéfaction. Sa colère, et être debout, c'est avant même d'inventer un geste technique, c'est simplement se mettre debout en disant, vous faites chier. Mais une colère. Et là, ce que j'y entends,
c'est les bonnes manières.
Il lui arrive un truc à la Claudel. Hein. Il dit, je suis derrière un pilier au domaine musical. D'un coup, j'entends Stock, boum, un choc du Stock. Et donc, voilà. Et donc, simplement, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a cette analyse dans les années 50 et il fait tout un travail. Et ce qui est amusant, c'est de voir ce qui se passe après. Ce serait une longue discussion à voir. Peut-être, modestement, moi, j'aurais envie non pas de revenir au livre, mais d'utiliser cet arsenal sonore, cette découverte presque, son lien au social dont il parle aussi là, qui est intéressant, son ouverture à la rue, au bruit, aux voitures, et de faire rentrer cette extraordinaire expérience de nouveau dans le livre. Parce que je suis une génération très proche. Donc peut-être que vous, Antoine, peut-être que vous, justement, vous pouvez aussi, on n'a pas la même génération, c'est-à-dire vous pouvez vous placer, découvrir ça complètement fraîchement. Et vous êtes peut-être, vous pouvez l'utiliser plus directement encore, ce rapport au découpage, au collage. Voilà, ce sera une longue histoire. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on vient d'entendre nous met tous face à nos générations, à nos méthodes, à notre histoire personnelle, qu'on soit artiste d'ailleurs ou pas, qu'on soit aussi auditeur.
Oui, se placer dedans ou se placer contre ou faire avec, selon...
C'est ça, c'est ça. Et après, bon, après, on peut raconter chacun, comme dans un espèce d'immense tai chi, comme ça, comment les artistes se déplacent tout doucement les uns par rapport aux autres. Et c'est... Enfin, je dis le contraire de ce que je disais tout à l'heure.
C'est possible, hein, c'est possible.
Si, je crois que le tai chi, c'est du karaté au ralenti, donc ça revient au même. Non, je crois, c'est ça. Enfin, c'est un sport de combat.
Ça reste une lutte, ouais.
Lutte, mais... Ralenti.
Mais lui, justement, Bernard Hetzig, il a une idée un peu de lutte, de combat, parce qu'il a sorti un livre de poésie avant 62, pardon, chez Segers, et il s'est aperçu que personne ne le lisait, ça n'intéressait personne. Et il aurait pu abandonner, à vrai dire. Il aurait pu dire, bon, bah, tant pis, tout le monde s'en fiche de la poésie. Et c'est là qu'il s'est dit, non, il faut que la poésie aille de l'avant, qu'elle sorte. Et ça, c'est un vrai questionnement qui est encore actuel, je pense, puisque la poésie, bah, c'est un combat permanent.
On continue d'écouter Bernard Hetzig, grâce à vous, Antoine Hélène.
Mon dernier travail s'intitule « Respiration et brève rencontre ». Alors, à partir du moment où je me suis intéressé à la lecture à haute voix, comme ça, je me suis intéressé à la façon dont les autres lisaient, pouvaient lire. J'ai donc constitué une discothèque de voix d'écrivains que vous avez là, là. Tout ça sont des voix d'écrivains, n'est-ce pas ? Je me suis retrouvé dans les années 90 avec tous ces disques, comme ça, et je me suis dit « Tiens, je vais faire de brèves, fausses rencontres, faux monologues ou faux dialogues avec ces écrivains qui doivent tous être décédés. Il me fallait donc pour ça puiser dans ces disques, dans ces vinyles, puiser comme une biopsie les respirations quand elles apparaissaient. Alors ça, je ne pouvais pas le faire ici, bien entendu, donc j'étais obligé d'aller en studio et avec le technicien, on prélevait, quand on entendait une respiration de l'écrivain, et ensuite de mettre leur respiration en boucle. Ce qui fait que ce sont de faux dialogues, dans la mesure où ils ne parlent pas, mais ce sont de faux monologues, dans la mesure où on entend bien qu'il y a quelqu'un, puisqu'on l'entend respirer à côté de moi. Voilà. Alors c'était facile avec ceux que j'ai connus, évidemment. Mais d'autres, par contre, que je ne connaissais pas du tout, dont je n'avais rien lu, ça pouvait me prendre des mois à lire leur œuvre avant de faire une rencontre de 3 minutes, comme ça. Bon. Mais voilà, c'est mon dernier travail qui m'a pris pas mal d'années, quand même. Voilà, parce que j'ai fait 60 rencontres au total.
Oh, Gaëti, qu'est-ce que tu écris comme ça sur tes genoux? C'est que merde, ça mitraille tout autour, ça pète de partout. On est dans la merde jusqu'aux genoux, à ne savoir si on sortira vivant un jour de ce trou. Et monsieur écrit. Prends des notes. Dis donc, je peux savoir ce que c'est? Tu peux me le montrer? Tu me passes ton carnet? Juste un instant. Merci. Oh là là! C'est peut-être pas le moment. Voyons, mais... Mais c'est de la poésie. Et c'est ça que tu te trouves à faire ici? On est là depuis des semaines dans cet enfer. Et monsieur Ungaretti, dans la boue sous les balles, écrit des poèmes? C'est pas à croire. Ah! Et puis c'est un comble. Ça s'intitule Allegria. On croit rêver. Non, mais tu es... En tout cas, ils sont vachement courts. Mais dis donc, celui-là, sur cette dernière page, c'est celui que tu viens de faire? Mais qu'est-ce qu'ils ont, ce matin, en face? Ils ne peuvent pas nous foutre la paix un peu pour lire de la poésie? Et voilà que justement, ce dernier que tu l'as appelé le matin... Je m'illumine d'immensité. Non, ça va pas. T'es dingue ou... Incroyable. Moi, vois-tu, ce matin, je ne partage pas du tout ton extase. Si tu te tires indemne d'ici, en tout cas, et si tu en écris d'autres, je me demande comment tu pourras aller... Comment, en temps de paix, si on la revoit, tu pourras bien les nommer. Moi, je te propose Douleur ou cri, en contraste ou quoi que ce soit. De toute façon, on crèvera ici. Il ne faut pas rêver. C'est interdit. Même pour toi. À ton Alexandrie, à ton désert, à tes oasis. Cette journée, on ne sait même pas comment elle va se terminer. Tu entends? Ça s'excite drôlement en face. Il nous prépare quelque chose. Mais dis donc tes poèmes. Ce sont des flashs. Fichtrement elliptique. Ça doit être de la poésie moderne. J'ai jamais vu ça. C'est de la dentelle. Alors pour lui pondre ça, ici, dans cette galère, cette bouillasse, sacré Ungaretti, tu m'étonneras toujours. Tiens, je te le rends, ton carnet. Tu l'attrapes, tu me le repasseras à la relève. Je le lirai plus tranquillement. Si c'est possible. Ah, nom de Dieu. Allégria. Allégria. Ça, alors.
Bah, écoutez, le magnétophone nous a vachement aidés hein, à sortir de l'ornière de la poésie. Ça nous est apparu comme indispensable pour notre travail, pour la fabrication de nos textes et pour leur diffusion, puisque à partir de là, on pouvait les enregistrer et les faire circuler sur disque, indépendamment des lectures que l'on pouvait en faire sur scène. Le fait de se manifester sur scène, ça devient une sorte de poésie-action aussi, n'est-ce pas, qui change complètement la donne par rapport au texte. Entre ce type de poésie donnée sur scène par les poètes eux-mêmes que celle de simple lecture de poésie, le poète assis derrière sa petite table avec le verre d'eau et la carafe. Certains s'y sont mis, bien entendu, des poètes classiques ont voulu faire ça aussi. Mais à quoi bon, dans la mesure où ce n'est pas une poésie qui est faite pour être donnée en public, c'est une poésie qui est faite pour le livre qui doit rester dedans. C'était fin des années 70, un poète justement de poésie blanche, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Royer Journoux, qui avait une émission à l'époque à France Culture qui s'appelait Poésie ininterrompue. Et ça consistait à avoir trois séquences chaque jour de la semaine de 30 secondes ou une minute, juste un flash, n'est-ce pas, comme ça. Et puis le samedi, il y avait un interview avec un intervieweur choisi par le poète. Donc lui était vraiment très très tolérant. Et alors il m'a invité, il a invité Dufresne, mais il m'a dit à l'époque, tu n'as aucune idée, Bernard, du nombre de poètes qui refusent de venir à la radio. Parce qu'ils considéraient, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque, oh, bah, écoutez, nous, on écrit nos textes, on les publie, qu'est-ce qu'on a à venir lire, les lire en plus. C'est pas notre job. C'est vous dire quand même que les choses ont quand même bougé, parfois en mieux.
Voilà. Il est question d'une lutte, d'une guerre ce soir dans l'atelier du son. La lutte, la guerre, celle de Bernard Heitzig, c'est de la poésie sortie de la page devenant la partition, c'est ce qu'il nous racontait tout à l'heure, c'est ce qu'il vous racontait, Antoine Lalanne, quand vous l'avez rencontré en décembre 2013, un peu moins d'un an avant sa disparition, Bernard Heitzig qui est disparu le 22 novembre dernier. Vous apprenez quoi, vous, quand vous l'écoutez comme ça la première fois? Vous qui vous intéressez, vous qui êtes journaliste à RFI, qui vous intéressez au son, à la poésie sonore, quand il vous raconte ça, vous apprenez quoi?
Bah, déjà, ça permet de préciser un petit peu ce que je savais sur de nombreuses choses, parce que j'avais des connaissances bah, forcément imprécises. Mais qu'est-ce que j'apprends? Moi, ce qui m'a vraiment marqué quand je l'ai vu, c'est déjà son enthousiasme et aussi le fait qu'il était toujours connecté avec ce qui se passait autour de lui. Parce que quand je le rencontre, il a quand même 85 ans. Mmh. Bon, il était un peu fatigué. Mais quand même, il reste, il reste connecté avec son monde.
Par ailleurs, il dit quand même le contraire dans l'entretien lui-même. Il dit Internet, j'y comprends pas grand-chose, etc. Mais en même temps, vous ressentez un peu le contraire.
Ah oui, complètement. Mais d'ailleurs, il comprend pas grand-chose. Mais quand même, il y a quelqu'un qui est proche de lui qui lui s'émeille quand il en reçoit. Il dit pas, c'est pourri, ça m'intéresse pas. Il reste. Et puis même, il était. Quand j'étais chez lui, j'ai vu sur son bureau, il y avait une lettre à laquelle il répondrait. Il y avait un bouquin qui était ouvert avec des annotations. Il se reposait pas s'arrête du tout sur ses lauriers. Mmh. Et ça, moi, ça m'a, c'est ça qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu.
Ouais. Olivier Cadio, Respiration et brève rencontre, à quoi fait référence Bernard Haitink dans l'extrait qu'on vient d'entendre de l'entretien? Vous l'avez relancé dans le circuit, vous l'avez reproposé, je crois notamment quand vous étiez artiste invité à Avignon en 2010.
Non, mais c'est vrai que c'est une pièce, absolument, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, de ce qu'on a... C'est-à-dire, on pourrait parler de plein de choses, on pourrait dire que c'est une sorte de Lagarde et Michard, complètement... c'est aussi, c'est de la théorie totalement pratique, c'est d'une ironie, enfin, et d'une, parce qu'une perversité extraordinaire. Et voilà, donc, quand j'étais à Avignon, ça, je me disais, comment faire, j'avais la possibilité d'inviter des écrivains, et comment faire hommage à Bernard Haitink, qui avait pour le coup arrêté de lire. Qu'est-ce qu'on fait d'un si grand performeur? Qu'est-ce qu'on peut faire sans lui? C'est bien ce qu'on peut aussi dire aujourd'hui.
Ça pose la question de la postérité aussi.
Exactement, c'est pour ça que je dis. Alors donc, simplement, il avait, donc, Brève Respiration, je me suis dit, c'est possible de le faire, non pas interpréter, mais de faire... C'était un peu pompeux, mais j'avais marqué sur le programme tentative de restitution d'une performance sonore, quelque chose comme ça, pour montrer qu'au public, attention, on n'est pas au théâtre, c'est-à-dire c'est pas, on ne reprend pas le rôle-titre et on le fait. Donc j'avais demandé à Laurent Poitronneau, acteur prodigieux, et que Bernard avait vu dans des pièces. Donc il était déjà intéressé. Hein. Il m'a donné le feu vert pour le faire. Il aurait pu dire non. Et il a entendu la chose au final et il a donné son imprimatur. Et alors voilà, et on a réalisé la Comédie de Reims récemment. Et ça fonctionne. Alors ce qui est intéressant, c'est que la voix de Poitronneau, la voix de l'acteur, se pose sur la voix de Bernard. C'est-à-dire qu'il ne joue pas à Bernard, il ne l'imite pas. Alors je pense que pour les proches, c'est extrêmement bizarre. Par exemple, très très touchant et très peut-être déstabilisant. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On le fait aujourd'hui à la radio. Peut-être qu'il aurait fallu faire des captations extraordinairement, ou alors avoir, je sais pas, avec des hologrammes. En fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous oblige à travailler. Il nous fait rêver d'une technologie qu'on n'a pas. Alors, vous parliez du Revox. Ces pièces, si on veut vraiment les exécuter dans l'avenir, il nous falloir beaucoup beaucoup de matériel. Et on pourra.
Il faut entretenir le Revox.
Il faut un hologramme. Voilà, hologramme révoxien. Je ne sais pas si c'est...
Mais on le fait pour Michael Jackson, qui est hologramme
sur
scène.
Parce que son corps, non, parce que la stupéfaction devant ses lectures, c'est la présence corporelle. C'est en cela que il est debout, c'est en cela que c'est un performeur. Et curieusement, un acteur de lui-même. Enfin, et son corps est essentiel.
Et alors, quand on parle de Bernard Haitink, on parle d'un entourage aussi, alors de gens qui sont venus après lui, plus ou moins inspirés par lui. Il vous parle d'Anne-James Chaton dans vos entretiens, Antoine Lalanne, et puis il y a d'autres noms, Charles Penquin, voilà, Christophe Tarkos, voilà, qui a une rencontre importante. Mais il y a aussi les rencontres qu'il a fait lui, qui l'ont nourri dans son travail poétique, et en particulier, il revient sur un épisode que vous avez évoqué rapidement, Antoine Lalanne, c'est ce qui se passe à l'American Center dans le 14e arrondissement de Paris, à l'endroit où aujourd'hui il y a la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Là, il y avait ce centre américain culturel très important pour la contre-culture dans les années 60 et 70. Et ben voilà, il vous en parle, il nous en parle.
En décembre 1962, j'ai trouvé dans une galerie un prospectus qui s'appelait Fluxus Fluxorum. La typographie m'a intrigué et j'ai vu que c'était une manifestation qui se tenait pendant toute une semaine à l'American Center du boulevard Raspail de Paris, qui était un haut lieu où se passaient beaucoup de choses très importantes à l'époque. Donc c'était une référence, si vous voulez. Le dernier soir, qui était le vendredi ou le samedi, ça devenait Poésie ouverte, domaine poétique, avec deux noms que je connaissais, François Dufresne et un autre, Jean-Clarence Lambert, qui paraissait être l'organisateur de cette manifestation, en tout cas du samedi. Alors, j'ai décidé d'y aller dès le lundi et je suis tombé donc sur le groupe Fluxus qui venait de Wiesbaden, où ils étaient installés à ce moment-là, en étant passés par Copenhague, et ça a été un choc formidable, une révélation. Parce que j'ai vu là quelque chose que je ne connaissais pas. Moi, je ne m'étais pas encore manifesté en tant que lecteur sur scène. Et je voyais bien là une possibilité pour la poésie de se présenter sur scène, à la différence du happening que Jean-Jacques Lebel, peu de temps avant, avait introduit. Et je préférais la rigueur de Fluxus à celle du happening, qui ne me concernait pas du tout. Alors, je suis donc retourné le lendemain, le surlendemain, jusqu'au samedi, c'était archi-comble. Et là, il y avait non seulement Jean Clarence et François Dufresne, mais des inconnus, à savoir Gerasim Lucas, qui tenait son fameux quart d'heure de culture métaphysique, que j'ai encore dans les oreilles, tellement c'était magnifique.
Allongé sur le vide, bien à plat sur la mort, idée tendue, la mort étendue au-dessus de la tête, la vie tenue de deux mains. Élevez ensemble les idées sans atteindre la verticale et amenez en même temps la vie devant le vide bien tendu. Marquez un certain temps d'arrêt et ramenez idées et mort à leur position de départ. Ne pas détacher le vide du sol. Gardez idée et mort tendus. Angoisses écartées, la vie au-dessus de la tête. Fléchir le vide en avant en faisant une torsion à gauche pour amener les frissons vers la mort. Revenir à la position de départ. Conserver les angoisses tendues et rapprocher le plus possible la vie de la mort. Idées écartées, frissons légèrement dehors, la vie derrière les idées. Élevez les angoisses tendues au-dessus de la tête. Marquez un léger temps d'arrêt et ramener la vie à son point de départ. Ne pas baisser les frissons. Conserver le vide très en arrière. Mort écartée. Vide en dedans. Vie derrière les angoisses. Fléchir la mort vers la gauche, la redresser et sans arrêt la fléchir vers la droite. Évitez de tourner les frissons. Conservez les idées tendues et la mort dehors. Couchez à plat sur la mort, la vie entre les idées. Détachez l'angoisse du sol en baissant la mort, en tirant les idées en arrière pour soulever les frissons. Marquez un arrêt court et revenir à la position de départ. Ne pas détacher la vie de l'angoisse. Gardez le vide tendu. Debout, les angoisses jointes, vide tombant en souplesse de chaque côté de la mort. Sautillez en légèreté sur les frissons à la façon d'une balle qui rebondit. Laissez les angoisses souples. Ne pas se raidir. Toutes les idées décontractées. Vie des morts penchée en avant. Angoisse ramenée légèrement fléchie devant les idées. Respirez profondément dans le vide en rejetant vide et mort en arrière. En même temps, ouvrir la mort de chaque côté des idées, vie et angoisse en avant. Marquez un temps d'arrêt. Aspirez par le vide. Expirez en inspirant. Inspirez en expirant.
Il y avait Brian Gazin, que je découvrais également, qui donnait son fameux I am at Arm, premier poème électronique en quelque sorte.
I am, that am I am, that I am I, that I am, that am I, that am I, that am I, am that. I am. Am I that? Am I that? Am I that? Am I that? Am I? Am I that? Am I? Am I that? Am I? Am I that? Am I that? Am I that? Am I? 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 I am that I am. I am that I. Am I? Am that? I am. I am that I am. I am that I am.
Et le troisième, c'était Robert Filliou, qui donnait un poème de je ne sais plus combien, 300 kilos ou un truc comme ça. C'était une sorte de poème action. Alors, inutile de vous dire que cette semaine, ça a été quelque chose d'incroyable de découvrir à la fois Fluxus et de découvrir ces trois autres grandissimes.
Et on se rend compte qu'il y a des moments dans la vie d'un artiste où les choses s'accélèrent ou se densifient, comme on disait tout à l'heure avec vous, Olivier Cadio. Antoine Lalanne, là, c'est important aussi de voir à la fois comment un artiste raconte ses rencontres, mais aussi finalement ce qu'il doit à certaines personnes et à certains moments.
Oui, oui. Bah oui, Bernard Hetzig, il est reconnaissant à plein de gens. Hein. Et là, on a entendu hein, dans les sons, il en parle beaucoup. Hein.
Mm-hmm. Ouais. Antoine Lalanne, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette rencontre qui date d'il y a un tout petit peu plus d'un an avec Bernard Hetzig, ce qui nous a permis de l'entendre. Et c'est la question de la présence. On a compris à quel point c'était important dans son discours, dans ce qu'il a fait. Et grâce à vous, il a été présent par la voix dans l'atelier du son ce soir. Merci beaucoup.
Bah, merci à vous. Moi, je suis très heureux. Et juste un mot, c'est pour remercier les éditions des Vanos qui fait de la poésie. Mm-hmm. Et c'est grâce à eux que j'ai pu rencontrer Bernard Hetzig.
Et ils sont cités ce soir grâce à vous. Merci.
Merci.
Restez avec nous. Olivier Cadio aussi, restez avec nous. On continue.
L'atelier du son sur France Culture. C'est l'heure de la chronique sur nos deux oreilles, Thomas Baumgartner.
On ne pense pas assez à l'écho. On ne pense pas assez à l'écho parce qu'il vient après et c'est comme Poulidor, jamais maillot jaune. L'écho vient après, parfois tout de suite après, parfois tellement proche, tellement légèrement décalé qu'il nous apparaît comme un tremblement du son. Pourtant, il est bien là. On ne pense pas assez à l'écho alors qu'on se méfie des répliques d'un tremblement de terre. Même quand la terre ne tremble plus, on reste sur le qui-vive, alors que l'écho, personne n'aurait même l'idée de s'en méfier. Pourtant, il aurait tout pour intriguer. C'est notre voix, notre son, qui nous revient, la même voix, le même son, même pas retourné, la voix, le son, comme le miroir a la politesse de le faire avec notre image. C'est un vrai double. Là-bas, derrière la montagne, vous rendez-vous compte qu'il y a peut-être un monde qui est le même que le nôtre en tout point, décalé seulement de quelques secondes. C'est une hypothèse, mais personne ne cherche à l'étayer parce que personne ne pense à l'écho. Pourtant, il y a des moments où on devrait, par exemple, quand, un peu plus de 15 jours après un événement, il y a encore résonance. La force de l'écho, c'est qu'il est sonore, donc qui nous renvoie des vibrations. Et ces vibrations ne parlent pas à la tête, elles parlent au corps. Ces ondes font vibrer notre peau, notre abdomen, ce qui fait que même longtemps après, on reste et on restera secoué. On ne pense pas assez souvent à l'écho. Thank you. Je déplaçais ces blocs de texte avec précaution, avec le même soin qu'un imprimeur d'autrefois, ces blocs de plomb enserrés dans une forme de métal par une marqueterie précise de bois tenue par des serre-joints de cuivre et de bakélite. Je bougeais les phrases, les tendais en diagonale jusqu'au point de rupture du sens. Je réglais la merveilleuse aimantation entre les mots, imprimeur dans le vide, curieuse profession. Assez vite, j'abandonnais ma liste de mots à la verticale pour replonger à l'intérieur de journaux ou de livres sans intérêt. Si on veut bien se rapprocher très près d'une page imprimée pour lire dedans, et en verticale, on voit apparaître des poèmes parfaits et déjà réalisés, des strophes parfaites dans leur forme idéale, toutes prêtes, déjà écrites. Il suffisait de prélever cette réussite involontaire, puisque seul le hasard de la composition de ces proses avait décidé de la présence exacte d'un mot au-dessous d'un autre, puis de la découper soigneusement en suivant ses contours avec un cutter de chirurgien, comme une pièce de puzzle aux angles droits. Il suffisait ensuite de la transporter délicatement et de la disposer sur un marbre, on dirait une petite chose vivante qui bat sur une table de dissection. Un extrait de Providence, paru chez POL, signé par vous, Olivier Cadiot. Providence, quatre nouvelles. On y croise un personnage qui se rebelle contre son auteur, un jeune homme qui devient brusquement une vieille dame, une jeune fille qui monte à la capitale et un homme âgé qui n'y comprend plus rien. Alors là, je cite presque textuellement la quatrième de couverture pour se débarrasser peut-être de l'action. Voilà, une fois que c'est dit, parce qu'il n'y a pas de résumé possible, c'est très compliqué de donner une idée des multiples images que vous nous donnez, des citations souterraines, des moments de sens, des moments sensibles, exacerbés. C'est un livre des cinq sens, on pourrait dire, d'autant qu'il y a toujours cette couverture crénelée de POL, donc il y a le toucher aussi. Et donc les cinq sens, dont Louis. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous inviter ce soir, notamment, mais on a parlé de Bernard Hetzig en début d'émission. L'idée de parler de Providence par le son nous est venue à la lecture. D'autant que vous nous avez donné une histoire de son il y a quelques semaines, qui était une lecture en avant-première d'un extrait de Providence. Le son, est-ce que c'est un déclencheur de l'écriture ?
En fait, j'aurais dû mettre roman sur la couverture, parce que même si chez POL, ça se fait finalement assez rarement, pour laisser le lecteur décider du genre. Mais il y a quatre parties, c'est moins les récits de nouvelles, finalement c'est quatre parties avec quatre personnages qui sont quatre avatars ou projections d'un auteur qu'on voit à peine. Ou disons que l'auteur, il devient très brusquement, au moment où il va devenir un jeune garçon épatant, il devient une vieille dame en 5 secondes.
Quelle drôle d'idée, c'est ça que vous dites.
Oui, enfin c'est-à-dire, bon, et donc c'est à chaque fois une manière d'éviter la position d'auteur. Pour reprendre Bernard Hetzig, c'est aussi, sans aucune prétention, la politique de la littérature. C'est-à-dire, à la disparition de l'auteur, c'est une tarte à la crème. Comment est-ce qu'on la fait vraiment dans un livre ? Alors, bon, il faut faire quatre autobiographies qui vous assassinent. C'est une manière, mais il y a plein d'autres manières, bien sûr. Le son, oui. Le son, disons que, bien sûr, le son est déclencheur, mais c'est surtout ce que je voudrais, idéalement, c'est produire du son écrit. Au fond, c'est un livre qui dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, puisque c'est un peu facile hein, comme méthode, faire un livre pour dire aux gens que tu sais pas comment on va faire, mais on va se débrouiller ensemble. C'est un tutoriel de moi-même.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou qu'est-ce qu'il nous reste à faire ?
Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Simplement, bon, c'est vrai, ça reprend aussi ce qu'on disait tout à l'heure. L'invention en littérature qui est quand même la moindre des choses. C'est-à-dire, c'est quand même extravagant qu'on soit obligé de s'étonner que des gens fassent des inventions en littérature. On a envie de se pincer, quoi. D'ailleurs, moi, les gens disent des choses très gentilles sur mon travail, mais c'est toujours « Oh là 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 là, quel hurluberlu !» Enfin, je veux dire, mais c'est bien. Pour l'instant, on me dit souvent que c'est bien, donc j'ai de la chance. On pourrait me dire c'est mal un jour, ou ça va peut-être m'arriver demain. Mais, quelque chose de bizarre, là, avec la question de l'invention. Voilà. Simplement, le son, ce que j'aimerais, pour reprendre ce que dit Bernard et Tic là-dessus, c'est... produire chez le lecteur une sorte de son particulier. Et je serais bien en peine de vous expliquer ce que c'est. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le son, l'écrit, quelque chose qui se voit sonore.
Ça existe, la forme d'onde. C'est du graphisme, c'est écrit.
Oui, ça c'est vrai. Mmh. Oui. Mais alors, idéalement, Ali se fait. Alors, ça se fait avec du sens. Là, ce qui m'a amusé beaucoup, c'est qu'avant, évidemment, par facilité, je faisais des découpages, je faisais des montages, j'utilisais la typographie, j'utilisais comme un imprimeur un peu ce que je raconte. Là. Je m'occupais de l'espace. Là, au bout d'un moment, j'ai dû abandonner ça. Tout simplement parce que c'est devenu aussi fatigant, parce que c'est devenu académique. La poésie s'académise à toute vitesse.
Puis vous dites que ça fait peur aussi, le blanc dans la page.
Oui, ah non, ça c'est parce que je croyais, en mettant pas mal de blanc, enfin blanchissant pas mal mes livres, donner au lecteur, faciliter le lecteur. Parce que moi, je ne suis pas dans une... Justement, là où j'ai changé de génération, je ne suis pas dans une génération qui pense que la littérature doit être difficile pour s'imposer. Enfin, au contraire, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans le sens du poil de je ne sais pas quel lecteur idéal, mais essayer que ça soit lisible en temps... Enfin, voilà, et donc... le blanc, je pensais que c'était pas mal parce que tout d'un coup ça repose. Je me dis, ah, le lecteur, là, je peux lui balancer pas mal, bombarder d'images. Et puis à un moment donné, ardoise magique, hop, on respire. Et, ou alors on peut dénier ce qu'on vient de dire. On peut aussi se mettre du côté de l'exergé. Non, bah, c'est pas très important. Prenons autre chose. Un livre, ça vous prend au collet par différents. Je sais pas, mon image marchera pas. Prendre au collet par différents quoi, je ne sais pas. Par une fenêtre ou une porte, peut-être. Mais bref. Et voilà. Et donc, produire du son, oui. Mais quels sont ?
Ouais. Et c'est de quand vous entendez, quand vous avez une expérience d'audition particulière qui vous marque, c'est d'essayer de le transcrire, de prendre la note, d'en faire une des pièces de votre puzzle. Moi, je vous imagine avec une série de pièces de puzzle qui ne vont pas forcément ensemble et que vous polissez pour en faire
oui,
un récit.
Ça, sans doute, oui. Mais ça, c'est très, très banalement une impuissance littéraire d'écrivain de base. C'est-à-dire, moi, je mets beaucoup de temps à comprendre ce que je veux raconter. C'est une drôle de méthode. C'est la méthode peut-être à l'envers. Enfin, je pense que beaucoup d'écrivains font comme ça. Ils ne le disent pas. Parce que ça ne fait pas sérieux comme ça. Mais le son, des expériences directement... Non, c'est toujours des expériences complètes que j'essaie de traduire. J'ai bien aimé ce que disait Angot, là, dans son grand article qui est sorti récemment, au propos de Houellebecq, où elle dit le travail de l'écrivain, c'est plus ou moins... Pardon, je le cite mal, mais consiste à faire une couche et à l'enlever pour en retrouver une autre.
Ouais.
Comme un espèce d'archéologue, mais qui serait hyper punk. Ça, je ne sais pas si ça existe, ce modèle du type qui brûle ses fouilles et qui recommence. Enfin, je ne sais pas.
Si,
voilà, il y a un travail comme ça pour reproduire avec un objectif très simple. Et là que je partagerais avec Bernard Hetzig, c'est là où on serait tous d'accord, pour produire un effet non pas moderne, non pas inconnu, mais redonner. Je pense que c'est aussi un contre-don idéalement pour le lecteur. C'est quelque chose qu'il connaît, qu'il a entendu pour rester dans le son, mais qu'il n'a jamais vu transcrit. Donc il y a un bonheur partagé. Moi, c'est pour ça que j'aime certains livres. C'est qu'on a l'impression qu'il y a un programmateur qui m'a encodé quelque chose que je sais. Les écrivains ne sont pas là pour fournir des choses inconnues.
Mais il y a une scène, par exemple, allongée sur un lit, un personnage qui entend au loin des cris d'enfants. Il y a un ray de lumière qui traverse la pièce. Et ça, c'est quelque chose de... chacun peut se... Voilà, être avec vous ou avec le narrateur dans cette position-là. Je vais vous proposer un jeu radiophonique, Olivier Cadio. On va vous faire, vous avez un casque sur les oreilles, ça tombe très bien. On va mettre du son à l'intérieur, une sorte de possible, éventuelle proposition d'éléments sonores liés à Providence. Si ça vous dit d'en parler, de dire ce que ça, si ça vous fait réagir, vous avez le droit, vous êtes même sollicité pour ça, mais si vous n'avez pas envie, on écoute.
Il y en a plusieurs, alors je peux passer.
c'est une bande son.
Ah, c'est une seule bande son.
Mais voilà, vous allez voir la mosaïque.
Un début un peu guernesais, enfin un peu, j'écris dans un truc en vert avec la mer qui me... Hein, j'ai pensé à ça. Et puis après j'ai pensé à la ligne rouge, au son extraordinaire du film
de Terrence Malick,
le début, où il y a comme ça, bon, un effet mystico, comme il sait les faire, avec... Là ça change. Bon, alors là évidemment vous... Oui. Oui. Cri d'enfant de loin. Ça, j'essaie de décrire ça, c'est une expérience que tout le monde connaît. Être enfermé, peut-être enfant, dans une chambre, dans le noir, et d'entendre des enfants loin. Le son, ce qui est intéressant, c'est quand il vous arrive et que... Ça, c'est, tout d'un coup, c'est moins gai, oui, évidemment, mais les enfants sont transformés en corbeaux. Là, c'est le coup. Oui, si on prend les livres comme des contes, ça me va bien aussi. Ça fait peur un peu.
J'espère qu'il va y avoir autre chose, non? Des Hitchcock. Ah. Côté légèrement lynchéen de cette transition, un peu Mulholland Drive. Grosse voiture, Buick. Heureusement, le type a le bon goût de mettre France Musique. Il posa sa main sur sa cuisse et lui dit « Ne trouves-tu pas ? Partons. » Ah ça c'est oui et non. Ah non, c'est méchant de me mettre ça, c'est ce que je déteste le plus. Ça me fait très très peur. Mais je l'ai dit dans le livre, vous êtes ça, c'est pas... C'est... J'aurais bien voulu faire un jour une émission où on, au lieu de... Vous savez, on demande souvent aux gens les disques que vous préférez. Ça. Mais pourquoi est-ce qu'on passerait pas les disques qu'on déteste? Parce que ça changerait rien pour les auditeurs, qui s'en foutent de savoir si vous aimez ou pas quelque chose, non? Ça, je trouve ça... C'est la symphonie de Schubert, oui.
Oui, c'est Schubert.
Ah, ce petit personnage-là, à clarinette, qui emmène tout le monde sur le pont, faussement guilleré. Bon, on a tous deux ou trois musiques qui sont comme ça... qui vous rappellent, je ne sais pas, des situations d'écoute angoissantes. J'espère qu'on va... Si j'étais à votre place, je ferais ce geste vers la cabine... Nous allons malheureusement interrompre ce programme.
Non, mais ça fait partie des quelques titres que vous citez.
Oui, ça. Oui, ça, je ne sais pas. Ça, oui, ça, c'est une, je ne sais pas. C'est comme ça pourrait. Si vous me passiez la valse de Symphonie Fantastique de Berlioz après, et là, je me suicide en direct.
D'accord, bon, on va essayer d'éviter. Ça change.
La musique savante manque à notre désir.
C'est une phrase de Providence, ça.
C'est une phrase de Rimbaud, hein. C'est
et
pas
de Rimbaud.
Non, c'est pas une phrase de moi. J'ai jamais compris ce que voulait dire cette phrase. Ça pourrait être un bon exergue pour notre émission, là. Alors, heureusement, on revient un peu dans... Alors, est-ce que les livres, c'est des voix-off? De quel film? Est-ce que c'est pas ça? C'est peut-être une réponse facile à la question du son pour un... Est-ce qu'un lecteur... Ce serait bien d'avoir un SVP 1111 pour avoir quelqu'un qui dirait non. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une voix off? Est-ce qu'on ne lit pas les livres dans une espèce de consolation, au fond? C'est-à-dire appuyer sa propre lecture sensible, qu'on n'entend pas, parce qu'on ne s'entend pas lire.
Ah. It seems to me that someone is talking, and talking about his feelings. Are about his ideas of relationships.
No, John Cage.
But when I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for instance, I don't have the feeling that anyone is talking.
Je connais cet enregistrement. Il a une fenêtre, effectivement. Oui. On faisait un film, pardon.
Sound is acting, and I love the activity of sound. What it does is it gets louder and quieter. And it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. It does all those things which I'm completely satisfied with that. I don't need sound to talk to me.
C'est une sorte de doudou prodigieux, non? Au fond, hein, là, on aimerait l'avoir à l'oreille avec... D'ailleurs, c'est ce qu'on peut faire avec la technologie d'aujourd'hui, non? On peut se promener dans la rue avec cette voix.
Avec son doudou sonore.
Son doudou sonore, hein, son... Les livres, ça devrait être ça, non? Des doudous sonores. Je ne sais pas, mais sérieusement, hein.
Ouais. Est-ce que vous êtes synesthète? Est-ce que vous voyez des couleurs quand on voit quand vous entendez
non,
des
sons? Non, ça doit être un supplice, non?
C'est peut-être compliqué, ouais.
Vous avez cette maladie?
Non. Une personne sur 23, paraît-il, est synesthète.
Et il le sait?
Cette personne?
Oui. Alors là, dites donc, avec ce que vous envoyez comme musique, ça va. On va voir le nuancier Pantone. 7000 nuances. Ça va fatiguer les gens.
Et on termine sur Collapse de Einstürzte Neubauten, 1981. Voilà, l'Allemagne.
Le livre parle un peu ça part de souvenirs d'Allemagne en 80, où justement j'assiste à une lecture de Cage. Et sans très bien comprendre ce qui. C'est comme si. Voilà, j'avais vu Bernard Hetzig aussi. Sans comprendre tout à fait l'enjeu et avoir la sensation que, d'ailleurs, ce que j'essaie de raconter dans le livre, curieusement, c'est que la chose était à son maximum. C'était dans un grand théâtre, etc. Et il s'est assis sur une petite table et il s'est mis à gémir.
Merci d'avoir. Je suis désolé, on ouvre des questions et.
C'est épouvantable. J'ai vu une couleur.
Voilà.
C'est la première fois que je vois en couleur, comme dit.
Merci d'avoir été avec nous, Olivier Cadio, pour évoquer Providence et son son. L'émission est terminée. Elle a été préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Éric Boisset. Pour aller plus loin, rendez-vous sur franceculture.fr avec les compléments, les podcasts et les commentaires. Dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Et il y a une phrase que je voulais citer quand même avant. Si on augmentait le son de tout ça, on obtiendrait un fracas immense. Ça, c'est dans Providence. Ça pourrait être aussi au fronton de la télé du son. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Dans un instant, donc Aurélie Charron et France Culture, évidemment. Bonne suite de nuit. À très bientôt, à vendredi.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous. Voilà ce que vous entendrez la semaine qui suit dans les ateliers de la nuit. Mardi soir, l'atelier fiction poursuit la radio sur un plateau. Son partenariat avec Théâtre Ouvert, un texte enregistré en public. Des territoires de Baptiste Hamann. Nous sommes dans le pavillon témoin d'une résidence HLM. Il va falloir, entre quatre frères et sœurs, imaginer la succession et répartir l'héritage. Mercredi soir, chute « Les murs ont des oreilles » par Hélène Laurent et Manouchak Fachaï. Une déambulation autour d'une nouvelle de l'écrivain italien Italo Calvino, consacrée à Louis, intitulée « Un roi à l'écoute ». Jeudi soir, Ayahuasca d'Agathe Simon et Angélique Thibault. Ayahuasca retrace l'expérience d'une cérémonie chamanique en Amazonie. Enfin vendredi soir, dans son atelier du son, Thomas Baumgartner reçoit le pianiste Denis Badeau pour une improvisation en studio. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit. En attendant, n'oubliez pas de podcaster les ateliers de la nuit, ateliers fiction, ateliers de la création, ateliers du son, tout est sur le site internet de France Culture. Il sera bientôt minuit, c'est l'heure des nuits.